invité Dominique Charvet, qui est membre du syndicat de la magistrature, à faire, disons, l'exposé introductif, qui, bon, comme d'habitude, durera trois quarts d'heure, une heure, et ensuite on ouvrira en option. Sans plus tarder, je passe la parole.
Ce que j'essaierai de faire dans cet exposé introductif, c'est de donner des éléments de base pour permettre une espèce d'égalité d'information qui facilite un débat de l'ensemble de nous. Bien, disons que cette discussion sur la justice est d'actualité dans la mesure où ces temps derniers ont montré de nombreuses contradictions, de nombreuses discussions sur l'institution judiciaire. Ces discussions ont d'ailleurs montré également un nombre de contradictions importantes dans tant l'opinion publique que le pouvoir politique quant au but et aux pratiques qui étaient attendues de l'institution judiciaire. En effet, on a vu successivement reprocher aux magistrats d'être trop cléments, et je pense aux propos de M. Poniatowski, ministre de l'Intérieur, en même temps qu'on reprochait à certaines juridictions d'être trop dures, et je pense aux affaires Goldman et aux affaires de Bruno T. En même temps, nous voyons que des gens qui ne sont pas des juges, mais qui touchent de très près à l'institution judiciaire, les avocats, actuellement, sont au premier plan de l'actualité. Premier plan de l'actualité parce qu'ils repoussent un certain nombre de réformes qui sont en train de se faire pour des motifs que nous aurons peut-être à examiner. Enfin, les affaires récentes touchant à l'armée ont remis en pleine lumière la Cour de sûreté de l'État et actuellement il y a une campagne qui est en train de s'initier pour demander la suppression de la Cour de sûreté de l'État. Alors la constatation de ces différents faits, de ces différentes interpellations renvoie une autre constatation plus générale qui est celle selon laquelle l'institution judiciaire est toujours sollicitée, interpellée, mise en cause dans les moments de tourmente sociale ou de tourmente politique. Et cette constatation est confirmée par ce qui s'est passé dans les années récentes en France, et je pense là à des affaires très importantes, comme l'affaire Ben Barka, qui a posé le problème des rapports de la justice et du pouvoir politique, comme plus récemment l'affaire de Bobigny, qui a posé le problème des rapports de la justice et de l'avortement, et disons d'une façon plus générale la sexualité, et puis aussi de l'affaire Diable au sujet de l'immigration. Cette constatation n'est d'ailleurs pas propre à la France. Il est intéressant de s'apercevoir que bien souvent la situation d'un pays est appréciée à travers son institution judiciaire, son fonctionnement de la justice. Et je pense là à d'autres affaires un peu plus anciennes, mais au procès de Leningrad, pour ce qui concerne les pays de l'Est, et au procès de Burgos, pour ce qui concerne l'Espagne et les pays fascistes. En fait, la justice, et c'est la première constatation que je crois qu'il est important de se faire, sert de révélateur à un certain nombre de tensions politiques, sociales et économiques. C'est comme un point de passage, comme une caisse de résonance, comme un miroir qui renvoie à un moment donné à la société, soit à la société l'image d'elle-même, soit aux gens de façon générale, l'image de la façon dont les conflits sont résolus dans cette société. Dire de la justice que c'est un miroir, dire que c'est une caisse de résonance, dire que c'est un révélateur, ça amène à poser, disons, un problème plus général, c'est de savoir si l'institution judiciaire est la pure et simple reproduction de la société à un moment donné qu'elle donnerait à voir de façon mécanique ou mécaniciste. Et je crois que ce sera peut-être un des thèmes intéressants à débattre du débat qui aura lieu après cet exposé. Mais une fois cette constatation posée, je pense qu'il faut approcher de plus près cette justice, essayer de la démonter, pour voir comment se produit le phénomène judiciaire, comment se produit ce que je viens d'indiquer sur l'aspect de révélation que joue la justice. Et j'ai l'intention d'aborder cela sous trois points, qui seraient d'une part l'institution judiciaire, d'autre part les acteurs de la justice, et enfin le problème de la loi. Parce qu'en fait, il s'agit en gros de la maison, qui y vit, qui l'institue, et enfin, quel outil fait fonctionner cette machine, la machine judiciaire. Alors, en ce qui concerne l'institution judiciaire, il y a un premier débat très important, parce que c'est le débat classique, qui est celui de savoir si la justice est un pouvoir. Je pense que ça-ci fait appel à la culture générale de chacun, c'est que très longtemps, le problème de la justice a été posé en termes de pouvoir. Et on parle du troisième pouvoir, et on parle du pouvoir judiciaire. Et bien souvent, des conflits politiques se sont dessinés en France autour du problème de savoir si la justice était indépendante, si pour être indépendante, elle devait être un pouvoir. Et il n'est pas inintéressant de savoir, par exemple, le journal de l'une des organisations de magistrats s'appelle Le Pouvoir judiciaire. Alors, est-ce qu'on a vraiment affaire, par rapport à la justice, à un pouvoir de nature, disons de la même nature que le pouvoir exécutif ou le pouvoir législatif? Je crois que pour répondre à cette question-là, il est bon de faire un petit retour en arrière, et toujours pour faire appel à notre culture commune, de nous souvenir de nos livres d'histoire, de la 5e ou même de la communale, pour se rendre compte qu'une des images populaires déversées dans la conscience, disons, des enfants ou des lycéens, c'est celle de Saint-Louis juge. C'est très intéressant de voir que un dit grand roi de France, un grand souverain en quelque sorte, sa symbolique, c'est l'exercice de la justice. C'est bien, disons, à ce niveau symbolique qu'on trouve une relation au pouvoir. De façon plus concrète, toujours dans l'idée de venir à la situation actuelle, mais en faisant le chemin, on sait aussi, nous tous, qu'un des facteurs de la Révolution française a été le litige entre le pouvoir royal et les parlements. Il y a eu une grande bataille, vous le savez, dans les temps du XVIIe, XVIIIe siècle, entre, d'une part, le pouvoir royal qui voulait imposer sa norme, sa loi, sa règle, et d'autre part, des gens qui étaient des juges, au sens où ils avaient à régler les litiges entre les gens, mais qui non seulement étaient des juges, mais étaient aussi des gens qui avaient le pouvoir de contrôler la loi et qui pouvaient accepter ou refuser un ordre du roi. Et un des conflits très forts de la fin de l'Ancien Régime est justement ce débat entre le pouvoir royal et les juges, les parlements. Tout ceci conduit à penser, je crois, que si on ne peut pas dire à proprement parler que la justice est un pouvoir, et on va voir de quelle façon, si c'était un pouvoir, il serait subordonné, c'est en tout cas une espèce de démembrement du pouvoir. Et ce démembrement du pouvoir paraît s'être joué à un moment qui est celui du moment de la Révolution française, qui est aussi le moment de la prise du pouvoir par une nouvelle classe, qui est la classe bourgeoise, au préjudice des anciens détenteurs du pouvoir, que sont les grands féodaux agrariens. Et à ce moment-là, il se passe, enfin, il se négocie une sorte de compromis entre la classe qui va prendre le pouvoir, qui est la classe bourgeoise, qui n'a pas la légitimité de droit divin, de la légitimité divine en quelque sorte, du pouvoir royal, et qui ne peut donc pas imposer sa norme en fonction d'une légitimité qui vient d'en dehors d'elle, comme pouvait le faire le roi, qui tenait sa légitimité d'ailleurs, et qui doit donc essayer de montrer que sa légitimité est une légitimité qui repose sur un consensus général. Et pour que ce consensus existe, il faut qu'il donne le sentiment que lorsque sa norme est en application, elle est appliquée, mise en œuvre par des gens, par des institutions, par une institution qui est neutre, apolitique, au-dessus des conflits sociaux. De sorte qu'elle puisse ainsi dire « ça n'est pas ma loi qui est appliquée, mais en réalité c'est la loi, disons, commune, la loi du consensus commun. » Et donc, il lui faut trouver un mode d'imposer cette loi, de la faire paraître légitime. Et de l'autre côté, celui des classes dominées, qui, à ce moment-là, ayant conquis, en quelque sorte, une certaine émergence dans la vie politique, ont, entre autres revendications, celle de ne plus être soumis à l'arbitraire total du pouvoir royal. Et être soumis à l'arbitraire du pouvoir royal, ça voulait dire ne pas connaître le contenu de la loi, être jugé dans le secret et être à la merci des décisions arbitraires du roi ou de ses officiers. Et donc là, quelque chose se négocie qui aboutit à une institution judiciaire qui, à la fois, va donner un lieu public et contradictoire pour la résolution des conflits, et c'est ce que l'on voit à l'heure actuelle, les audiences, les avocats, le pour, le contre, le débat, le jugement avec une motivation, l'appel, la cassation, enfin toute cette machine très compliquée qui donne le sentiment qu'on n'est pas jugé sans garantie, et qu'en tout cas quand on est jugé, ça se connaît et on peut le contredire, il peut y avoir débat. Donc ce sentiment de démocratie. Et puis d'autre part, tous les mécanismes internes de l'institution qui vont permettre, en même temps que l'on donne cette image démocratique, de contrôler en réalité le fonctionnement complet du produit de la justice. Et c'est comme ça, en quelque sorte, qu'on est arrivé à la fois à une institution judiciaire et à l'institution de la domination de la justice. L'institution de la domination de la justice, c'est le deuxième point sur l'institution judiciaire, c'est de voir comment cette justice qui est destinée justement dans le projet que j'ai décrit à régler publiquement, contradictoirement, de façon égale pour tous, les conflits surgissant entre les hommes ou entre les hommes et l'État, est en fait complètement, disons, aliénée par toute une série de mécanismes qui la mettent au service, le plus souvent, d'une seule catégorie sociale ou d'une seule catégorie détenant du pouvoir. Ceci, on peut l'observer dans le fonctionnement même de l'institution judiciaire qu'on peut suivre et qui va de l'accès à la justice à la sortie de la justice. Bon, la première chose, lorsqu'on dispose d'une institution qui est destinée à régler les conflits de façon démocratique, c'est de pouvoir y accéder aussi de façon démocratique. Or, si on approche un peu plus ce problème de l'accès à la justice, vous le savez peut-être, on se trouve devant au moins deux filtres importants. Ces deux filtres, c'est d'une part le filtre du pouvoir et d'autre part le filtre de l'argent. Le filtre du pouvoir, c'est dire que, en ce qui concerne les affaires pénales, les juges, la justice n'est saisie que, dans la plupart du cas, par l'intermédiaire de la police. Or, quand on sait que la police ne dépend pas de la justice, mais du ministère de l'Intérieur, on s'aperçoit tout de suite qu'en fait, selon ce que dira la police, la justice agira ou n'agira pas. Et cela veut dire qu'en réalité, il y a tout un tri, déjà, qui s'effectue préalablement à la justice. C'est-à-dire que toute une série d'affaires ne sont pas connues et ne le seront jamais de l'institution judiciaire. Et pour parler encore plus clairement, il est bien évident que toute une série d'affaires touchant à la délinquance financière, à des fraudes, etc., eh bien, n'émerge jamais au niveau de la justice. Et puis, il y a le filtre de l'argent. Alors, le filtre de l'argent, c'est que la justice est gratuite, mais comme on le dit, les actes sont payants. C'est-à-dire que, effectivement, on ne paye plus les juges comme sous l'Ancien Régime, mais on ne peut pas faire un pas dans la justice sans avoir à payer tel document, tel timbre, tel impôt, tel officier ministériel ou public, tel avocat. C'est-à-dire qu'en réalité, la justice est d'emblée une institution qui crée, par ces filtres-là, une espèce de glacis qui fait que, finalement, les tris, un certain nombre de tris sont effectués préalablement à ce qu'elle est à connaître de la réalité. Donc, c'est déjà une réalité, en quelque sorte, qui a un contenu, qui a une signification, qui arrive à la justice. Et puis, quand on se trouve dans l'institution judiciaire, comment cette institution judiciaire va traiter les affaires dont elle a à connaître? Eh bien, trois choses marquent l'institution judiciaire. D'une part, son organisation pyramidale, d'autre part, la parcellisation des tâches, et enfin, son secret. L'organisation pyramidale, c'est le fait que l'institution judiciaire est organisée comme une pyramide, comme toutes les organisations administratives françaises, à savoir que quand on est jugé une première fois, on fait appel, et après on peut aller encore plus haut en cour de cassation, que les gens auxquels on a affaire devant soi dépendent de cette institution pyramidale, et qu'en haut de l'institution, il y a qui? Il y a le pouvoir politique. C'est-à-dire qu'il y a la réalité du pouvoir qui est là et qui peut, par différents mécanismes, contrôler la façon dont on va traiter une affaire, dont les affaires vont évoluer dans la machine judiciaire. Et c'est intéressant de me dire ça parce que ça n'est pas du tout abstrait quand on pense que pendant la Révolution française, par exemple, il avait été décidé que les appels, c'est-à-dire qu'on n'était pas content d'un juge et qu'on demande un deuxième jugement, n'auraient pas lieu par rapport à un juge supérieur, mais auraient lieu de façon circulaire. C'est-à-dire que devant un juge X, le juge de Paris, si on n'était pas content, on allait voir le juge de Versailles. C'est-à-dire que la justice était une organisation à ce moment-là horizontale, donc qui ne faisait jamais recours à la structure hiérarchique. Alors que le premier geste de Napoléon a été de recréer la pyramide judiciaire, et qui n'a jamais été mise en cause depuis. Deuxième point, la partialisation des justices. Je parle ce soir de la justice, mais en fait, une première question qu'on aurait pu se poser avant de commencer, c'est celle de savoir, est-ce que je parle de la justice civile, est-ce que je parle de la justice pénale, est-ce que je parle de la justice commerciale, de la justice prud'homale, de la justice militaire, et beaucoup d'autres comme ça. En fait, l'institution judiciaire a de multiples facettes qui font que la réalité, quand elle arrive devant la justice, est complètement éclaté. Je voudrais prendre un exemple là aussi concret. Quelqu'un qui a des problèmes de famille, par exemple, en général, comment ça se présente? Il a des ennuis de famille, ça produit des embêtements avec sa femme, ça produit des embêtements avec son gosse, ça produit généralement aussi des embêtements économiques, et ça aboutit à quelquefois des conséquences pénales ou autres. Bien. Et en quelque sorte, il se trouve dans une situation dont il faudrait résoudre pour son entier. En réalité, que se passe-t-il avec l'institution judiciaire? C'est que c'est le juge des enfants qui va s'occuper de son gosse, c'est le juge du divorce qui va s'occuper de ses problèmes matrimoniaux, c'est le juge des loyers, des loyers par exemple, qui va s'occuper de ses problèmes de maison, etc. Ce qui fait que la réalité sociale, la réalité humaine est complètement coupée en morceaux, complètement émiettée. Et ça aussi, ça produit quelque chose, ça produit le fait d'une espèce de rejet du justiciable, du rejet de la réalité des citoyens devant la justice. Troisième point, le secret. Ben, le secret, c'est tout simple, c'est pas besoin de s'étendre longuement là-dessus. Une affaire l'a démontré récemment, que le secret était au cœur de la justice. C'est l'affaire du jardin qui s'est produite il y a 18 mois, affaire dans laquelle un juge d'instruction a ouvert son cabinet à un journaliste pour qu'on voit comment ça se passait dans le cabinet du juge d'instruction. Qu'est-ce qui s'y passait? Qu'est-ce que c'était que ce type le plus puissant de France? Quels étaient ses pouvoirs exacts, etc. Bien, ça n'a pas été très loin, ou ça n'a pas tardé à arriver. Il a été immédiatement sanctionné, suspendu, privé de ses fonctions. Car en réalité, l'institution judiciaire ne supporte pas, et surtout le pouvoir ne supporte pas, que les secrets de la justice soient révélés. Et en fait, ce secret dans lequel vit l'institution judiciaire permet un certain nombre de choses qui sont le fait que les citoyens ne sachant pas ce qui se passe dans la justice, mais seul le pouvoir connaissant le fonctionnement de la justice, seul ce dernier peut intervenir sur le fonctionnement de l'institution judiciaire. Enfin, disons, une fois qu'une affaire est arrivée à la justice, qu'elle a été traitée dans les conditions que j'ai indiquées et qu'elle sort de l'institution judiciaire, eh bien on s'aperçoit que, en réalité, la justice n'est pas un pouvoir, puisqu'aussi bien elle ne peut faire exécuter aucune de ses décisions. Pour qu'une décision d'un juge soit exécutée, il faut avoir recours soit à l'administration préfectorale, soit à la police. C'est-à-dire qu'un juge peut toujours dire « j'ordonne au nom du peuple français telle ou telle chose ». Il ne peut en fait voir sa décision mise en application que si ceux qui ont la force, c'est-à-dire les préfets, l'administration, la police ou l'armée, acceptent d'y prêter main forte. Or, aucun de ces corps ne dépend de la justice, c'est bien évident. Et le problème n'est pas de savoir s'ils doit en dépendre ou pas, mais c'est un fait que ça n'en dépend pas. Et donc, en réalité, l'institution judiciaire émet des vœux pieux qu'elle peut espérer voir réaliser, mais dont elle n'a pas les moyens physiques d'obtenir la réalisation. Donc, en réalité, cette institution judiciaire apparaît comme quelque chose qui donne le sentiment d'être d'être un lieu de recours, un endroit dans lequel on peut venir débattre de la norme, on peut venir mettre en cause la loi, mais où en réalité, eh bien, son pouvoir est tellement infime qu'elle ne peut pas véritablement changer quelque chose, puisqu'elle est contrôlée aussi bien à l'entrée qu'à la sortie et pendant son fonctionnement. Bien, par rapport à cette situation-là, en quelque sorte, il y a les gens qui sont dans l'institution judiciaire, qui font fonctionner cette machine judiciaire. Ces gens qui font fonctionner cette machine judiciaire, c'est d'une part les gens qui sont des magistrats, et d'autre part les gens qui sont extérieurs à la magistrature, qui sont les avocats, les officiers ministériels, etc. Là aussi, on voit, en ce qui concerne la magistrature, des contradictions complètes entre le projet qui est celui que vous connaissez tous, d'ailleurs dont on parle tout le temps, de magistrature qui est indépendante, qui est au-dessus des conflits, qui est neutre, qui juge de façon impartiale, etc., etc. Et la réalité de ce que sont les agents de l'institution judiciaire, ce que sont les magistrats, bien, cette réalité, elle est toute simple. Elle est que bien, les magistrats, il faut les recruter, les magistrats, il faut les former, les magistrats, il faut les faire avancer, etc. Or, que se passe-t-il à ces trois niveaux? Eh bien, à ces trois niveaux-là, on trouve là aussi des contrôles très importants de la part de l'institution, de la part du pouvoir politique. Bien, au niveau du recrutement, ça n'est pas un contrôle, c'est une simple réalité, c'est que les juges viennent des facultés de droit, puisqu'il faut être juriste pour être magistrat, et que bon, dans les facultés de droit, bah, il y a essentiellement les gens qui viennent d'une certaine catégorie sociale. Je pense que c'est la même situation pour l'ensemble des cadres de la société, mais c'est notamment la situation pour les juges. Or, les juges sont destinés à trancher les conflits entre toutes les couches sociales. Or, si on en fait l'étude sociologique, on s'aperçoit qu'ils appartiennent majoritairement à une seule couche sociale. Bon, quant à leur formation, elle est justement quelque chose qui est très important parce qu'elle est un des lieux de conflit à l'heure actuelle de l'institution judiciaire. Pendant très longtemps, les magistrats ont été formés d'une façon extrêmement, technique. C'est-à-dire qu'on disait, au fond, pour former un juge, il suffit qu'il sache bien faire un jugement, bien faire un acte professionnel, et puis ça suffit, on le nomme, et puis il produira toujours le nombre de jugements dont on a besoin. Et puis, il s'est créé une école de la magistrature en 1959 pour mettre un peu de nouveauté dans la magistrature, disons une modernisme, c'est d'ailleurs Debré qui a créé cette école, dans l'idée d'en faire probablement une école nationale d'administration de la justice et de transformer les juges en des bons technocrates, bons efficaces, etc., etc. Du moins, c'est un peu ce qui s'est dit à l'époque. Eh bien, en fait, l'école de la magistrature a créé tout à fait autre chose, parce que l'école de la magistrature a créé quelque chose qui n'existait pas du tout chez nous, qui était la dimension collective de la réflexion. Il faut bien voir que les juges, en règle générale, lorsqu'ils travaillent, travaillent de façon solitaire. On leur dit tellement qu'ils doivent juger dans leur conscience que finalement, ils ont tendance à regarder uniquement leur conscience, ce qui veut dire tendance à ne rien voir de ce qui se passe autour d'eux. Et la création d'une école, c'était justement la nécessité de se trouver en contact avec d'autres gars qui faisaient également l'école de la magistrature. Donc, cette dimension collective a amené une solidarité entre des membres de la magistrature. Et d'autre part, ça a amené le besoin de se dire, si on est dans une école, si on est dans un moment de formation, il faut qu'on voit qu'est-ce qui se passe. Et ça a ouvert un peu, disons, l'esprit des magistrats au sens où il s'est ressenti un besoin d'ouverture sur l'extérieur. Et cela a conduit à la création de, entre guillemets, une nouvelle magistrature, au sens d'une magistrature plus solidaire et plus curieuse des choses extérieures. Ce qui a conduit, effectivement, à produire dans le fonctionnement de la justice des choses assez différentes. Parce que jusque-là, on avait l'habitude de magistrats qui étaient dans leur coin, qui faisaient leur petit boulot technique et qui quand ils essayaient de faire quelque chose, avaient beaucoup d'embêtements. Et tout d'un coup, on s'est trouvé devant des générations qui se sont mis à réfléchir collectivement, à poser des actes collectifs et toute une série de choses comme ça. Alors, devant ce phénomène-là, eh bien, c'est pas compliqué. Depuis 7 ou 8 ans, chaque année à peu près, ou tous les 2 ans, le pouvoir essaye de remettre en cause la formation des magistrats. Alors ça a été depuis diminuer la durée de la scolarité qui est passée de 3 ans à 2 ans en l'espace de 2 ou 3 ans jusqu'à changer les directeurs de l'école à une vitesse très rapide, au plus ils étaient libéraux, au plus ils changeaient rapidement, retrouver des systèmes complètement, d'attendre l'université d'avant 68 pour éviter que les gens prennent le temps de réfléchir. C'est ainsi que, par exemple, le programme de cette année de l'école de la magistrature consiste à obliger les futurs magistrats à faire 25 devoirs écrits en l'espace de 8 mois. Bon, comme ça, ça les occupe, ils ne s'occupent pas d'autre chose. Ça a amené, d'ailleurs, pour citer quelqu'un qui est passé à la télévision hier soir, je crois, l'ancien premier président de la Cour de cassation, un jour, on lui a demandé de faire un rapport sur l'école de la magistrature. À cette époque-là, il y avait deux périodes, une période qui se passait à Bordeaux et une période qui se passait à Paris. Et dans ce rapport, il était à peu près écrit cela, qui a amené d'ailleurs la suppression du stage parisien. À Paris, l'école ne veut pas jouer le rôle de mère-poule et les mauvaises fréquentations sont fréquentes. c'était pas ça exactement, mais c'était dans ce style-là. Donc voilà un peu l'enjeu, en quelque sorte, très, très net de cette formation des magistrats. Enfin, dans le fonctionnement, disons, des juges, il y a leur statut quotidien. Et leur statut quotidien, je voudrais simplement l'illustrer par une chose qui est le problème de la notation. Bon, qui est un problème connu, qui fait que tous les magistrats sont notés chaque année en juin, comme les étudiants savent s'ils ont ou non réussi leur unité de valeur, les magistrats savent si oui ou non ils sont bien notés, s'ils ont les croix dans la bonne case. Et il est intéressant de parler de cette notation parce qu'elle est un peu à la base de l'avancement, disons. Or, quand on regarde une grille de notation, par exemple, on s'aperçoit qu'il y a des choses qui sont notées et d'autres qui ne le sont pas. Par exemple, est notée pour un magistrat la pondération. Sa pondération, ça veut dire bon, ce que vous devinez. En revanche, il n'y a nulle notation qui s'appelle indépendance, par exemple. Et cette notation, en plus de ça, était donnée d'ailleurs jusqu'il y a peu à la fois par enfin était donnée bien sûr par la supérieure hiérarchique mais était donnée à la fois par les magistrats supérieurs hiérarchiques par exemple un juge de base est noté par son président mais en même temps par le procureur et le procureur c'est celui qui vient devant le juge réclamer une peine ce fait que ça aboutissait à ce que le procureur de la République était en même temps le demandeur, en quelque sorte, quelqu'un qui demandait quelque chose au juge, et en même temps son juge à lui. C'est-à-dire qu'il était juge et parti, et on l'a vu très bien dans l'affaire Pascal, par exemple, dans laquelle le juge d'instruction de Béthune, qui avait déplu, et dans une affaire, semble-t-il du moins, eh bien, s'est retrouvé avec une notation complètement en recul par rapport à la notation qu'il avait depuis plusieurs années parce que bon, ben, ça n'avait pas correspondu probablement à ce qui devait se passer et alors il s'était retrouvé avec de très mauvaises notes et en bas de ces notes normalement, encore ça n'a pas été le cas en l'espèce, normalement c'est le procureur général, c'est-à-dire celui qui était complètement opposé qui devait les signer, c'est-à-dire que on se trouve dans une situation dans laquelle le juge, au fond, chaque fois qu'il rend un jugement, il a derrière lui sa grille de notation. C'est-à-dire qu'il se dit, bon, quand je juge, est-ce que ça va faire glisser ma grille à gauche ou à droite? Ce qui m'arrive d'ailleurs dans la magistrature, c'est qu'au mieux on est noté, au plus on doit être à gauche. C'est une contradiction, je pense. Cette magistrature est non seulement marquée par cette notation, mais aussi marquée par l'obligation de réserve, qui fait que les juges n'ont pas le droit de parler normalement. Et moi, si je parle ici ce soir, je crois que c'est important de le dire, ça n'est pas parce que je suis magistrat, mais c'est parce que je suis syndiqué. C'est-à-dire que notre statut, qui soi-disant doit nous rendre libres, en fait nous donne moins de liberté que le statut syndical. Et ceci s'est vu également dans de nombreuses affaires dans lesquelles des magistrats ont pris la parole, notamment dans l'affaire de Charette, où il a été considéré, bien que ça n'ait pas été suivi de poursuites disciplinaires, que le juge n'avait pas à parler, n'avait pas à s'expliquer, n'avait pas à dire quelle justice il rendait. Ce qui aboutit, cette obligation de réserve, à rendre le magistrat quelqu'un de complètement coupé du débat social et du débat politique, puisqu'il lui est interdit de parler. Je voudrais m'arrêter là sur les juges pour essayer de parler d'autre chose dans les acteurs de la justice que sont les avocats, qui est quelque chose de très difficile. Et plus que des avocats, j'aimerais dire quelques mots de la défense. À l'heure actuelle, la défense en France est assurée de façon très, très précaire parce qu'elle coûte fort cher. Et ceci amène à ce que toute une série de justiciables se retrouvent devant les tribunaux sans être absolument en mesure de se défendre, sans être absolument en mesure de contester les faits qui leur sont reprochés, sans être en mesure de contester les peines qui leur sont appliquées. Il n'est que d'aller tous les jours à l'audience des flagrants de délit à Paris pour s'apercevoir qu'en réalité, beaucoup de justiciables sont jugés sans avocat, sans aucune défense. Et donc, ceci conduit à poser le problème de savoir pourquoi, alors qu'en principe tout le monde en France a droit à une défense, en réalité beaucoup de gens sont jugés sans aucune défense. Et là se place le phénomène qui a amené aux manifestations d'avocats, qui est une espèce de situation de je ne sais pas la qualifier, mais une sorte de décadence économique de la défense. C'est-à-dire que c'est une fonction qui, dans notre société, n'est pas considérée comme suffisamment importante pour être financée. De sorte que, à l'heure actuelle, pour beaucoup de citoyens, leur seule façon d'espérer être défendu, c'est soit d'avoir de l'argent pour payer un avocat, soit de faire appel à la charité des avocats. Et les deux tiers des affaires, qui sont des affaires d'ordre pénal, par exemple, les gens qui n'ont pas d'argent, n'ont pas de possibilité d'être défendus gratuitement, sauf si un avocat accepte de s'en occuper de façon charitable, en quelque sorte. Donc, on se trouve là devant un autre mécanisme qui fait que, pour des raisons économiques, en réalité, l'institution judiciaire, enfin, les gens qui ont affaire à l'institution judiciaire se trouvent en situation de complet désarmement. Par rapport à ça, justement, il faudrait ajouter que la justice a une tendance naturelle qui est l'individualisation des situations. C'est-à-dire que lorsqu'on se trouve devant la justice, les gens qui sont les justiciables, qui appartiennent eux aussi à l'institution judiciaire, puisqu'ils viennent devant la justice, se trouvent tout seuls et tout individualisés. Je crois que c'est très important à souligner, car ça veut dire que, par exemple, à l'heure actuelle, toute une série de locataires se trouvent en difficulté avec leurs propriétaires, avec des offices de HLM ou des sociétés civiles immobilières ou des trucs dans ce goût-là. Et il n'y a pas de possibilité pour ces gens-là de mener un procès collectif vis-à-vis des offices de HLM, vis-à-vis des sociétés civiles immobilières. La justice ne veut connaître que les affaires une par une, si bien que l'individu se trouve complètement isolé par rapport au fonctionnement de la justice. Et ceci amène, bien évidemment, à son complet écrasement. Et là, je voudrais aussi prendre un exemple qui correspond à une pratique judiciaire que j'ai eue. Dans le tribunal où j'étais, il y a quelque temps de cela, nous avions des audiences de grands magasins. Qu'est-ce que c'est que les audiences de grands magasins? C'est qu'il y a des vols dans les grands magasins, tout le monde connaît ça. Et on renvoie au tribunal correctionnel les gens qui ont volé dans les grands magasins, et nous les condamnons benoîtement, pour un saucisson 7 ans, pour une bouteille de whisky 7 ans, pour, la lingerie 7 ans, etc. Et ce qui était extraordinaire, c'est que dans la salle d'audience, il n'y avait que des gens qui étaient poursuivis pour vol dans les grands magasins. Et en règle générale, dans la ville où j'étais, il y avait deux ou trois très grands magasins. Il y avait, pour ainsi dire, la clientèle de Carrefour d'un côté, celle d'Auchan de l'autre, et les galeries Lafayette au fond. Et tous ces gens-là, en fait, en même temps qu'ils étaient des voleurs des grands magasins, étaient aussi des victimes de la distribution telle qu'elle existe dans les grands magasins. C'est-à-dire qu'en réalité, ils avaient aussi peut-être un discours à tenir par rapport à la façon dont les grands magasins traitent leur clientèle, qui amène à toutes les tentations qu'on connaît et au vol qui s'ensuit. Et ils auraient pu, je dirais à la limite, se mettre en groupe et dire au juge, mais bon, on est la fournée de Auchan de la semaine, mais on voudrait vous dire globalement qu'il y en a ras-le-bol parce qu'Auchan c'est ceci ou Auchan c'est cela, parce que, bon, ailleurs, quelque part, Auchan ça ne va pas, ça nous exploite aussi. Mais non, ça se passait comme dans les messes basses. C'est-à-dire qu'on appelait dossier Dupont, et on voyait Dupont qui arrivait du fond de la salle, les mains entre les cuisses, qui venait tout près du tribunal, derrière la barre, le juge disait, vous avez bien voulu une bouteille de whisky? Oui, monsieur le président. Bon, ça fait 8 jours sur 6, merci monsieur le président. Et il repartait au fond de la salle. Durand, vous avez bien volé à Auchan de saucisson? Oui, monsieur le président, ça fait 6 semaines. Bien, monsieur le président. Et il repartait au fond de la salle. Et ainsi de suite, c'était une espèce de noria complètement folle où les gens venaient en quelque sorte subir un châtiment, alors qu'il y avait toute une série de débats qui n'existaient pas et qui ne pouvaient pas être portés parce que chacun était dans son petit cocon, dans son petit délit, dans son petit problème, complètement isolé, parcellisé, immiété. Et je crois que ça, c'est un des mécanismes très importants à souligner de l'institution judiciaire, c'est de quelle façon, non seulement, comme nous l'avons vu au début, dans le premier point, elle découpe la réalité, mais comment elle en supprime toute la dimension sociale, toute la dimension collective, toute la dimension solidaire. Enfin, l'institution judiciaire ne fonctionne pas au nom de l'arbitraire, elle fonctionne avec un outil, et cet outil, c'est la loi. C'est la loi qui est la loi élaborée au nom du peuple français, appliquée au nom du peuple français, et qui, comme telle, est en principe égale pour tous, applicable à tous, et connue de tous. Il faut bien sûr qu'elle soit connue pour pouvoir être égal et applicable. Une loi non connue ne peut effectivement pas être applicable. Et donc, disons, le juge, et ça c'est très... Enfin, le juge, dit-on, applique la loi. Et c'est finalement sa principale légitimité. C'est-à-dire, quand les gens ont des problèmes avec la justice, ils disent, mais bon, le juge, il était bien, il n'était pas bien, mais c'est surtout la loi qui n'est pas bonne. Et donc, il y a un débat aussi sur la loi. Mais la loi, on nous a expliqué à tous, quand on faisait de l'instruction civique, quand on était à la faculté de droit, quand on est devenu juge, qu'elle est fabriquée d'une façon, on ne peut plus constitutionnelle, on ne peut plus réglementaire, qu'à tout moment, on voit comment la loi est élaborée, qu'on l'applique à tout le monde, etc. Or, ça serait peut-être bien d'appliquer la loi à tout le monde, qui est une loi égale pour tous, si c'était vrai. Mais en réalité, aussi bien quant à son élaboration, quant à son application, la loi n'est pas égale pour tous. D'abord, parce que dans son élaboration, eh bien, que se passe-t-il? Certes, la loi est débattue au Parlement. Certes, elle est votée par des députés, des sénateurs qui sont élus par tous les Français. Mais en réalité, la loi, elle naît à un moment donné, enfin une règle, elle naît à un moment donné, et il faut voir qui est-ce qui la propose. Or, si on regarde qui est-ce qui propose les lois au Parlement, on s'aperçoit que la plupart des lois sont proposées par le pouvoir exécutif et qu'il y a très peu de lois qui sont proposées par les élus du peuple français. C'est-à-dire qu'il y a peut-être une loi sur 10, ou sur 20, ou sur 5, j'en sais rien, qui sont la proposition effective des représentants du peuple français, c'est-à-dire de ceux qui ont été élus par tous. La plupart des lois sont en fait la fabrication du pouvoir exécutif. Et si on s'approche encore un peu plus, on s'aperçoit que, de plus en plus, les lois ne posent que les principes fondamentaux. C'est-à-dire qu'on fait des lois que l'on appelle cadres. C'est-à-dire qu'on dit, il faudra, en matière de pollution, qu'il y ait moins de pollution. Et tout le monde est content parce que tout le monde dit, ah ben, depuis le temps qu'on gueule contre la pollution, enfin on a pris une loi contre la pollution. Et puis, vous lisez la loi et vous voyez, cette loi, pour être applicable, devra recevoir des décrets d'application. C'est à ce moment-là que toutes les choses se compliquent et qu'elles se gâtent en règle générale. Parce que d'abord, les décrets d'application, on met 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans ou plus à les voir sortir. Ensuite, parce que ces décrets d'application, eh bien, ils ne sont pas du tout débattus par les représentants du peuple, ils sont débattus uniquement par le pouvoir exécutif et par ceux qui le détiennent, et hors de tout contrôle public. Et quelquefois, il y a pire, disons, c'est que certains décrets d'application d'un certain nombre de lois sont élaborés de façon que l'on appelle pompeusement concertée.